102 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Voilà, il est 7h à Kinshasa.
Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal avec Pascal Masirika.
Les titres ce matin, le choléra a fait des victimes dans la ville de Mbandaka et ses environs. En cause, le centre de traitement de Wangata manque de tout et le personnel médical est démotivé puisque non payé depuis 4 mois. Sortie médiatique à Kinshasa du ministre de la Justice et garde des Sceaux sur ses démêlés avec la justice belge. Alexis Thamwe Mwamba s'est dit confiant quant à l'aboutissement de ce dossier qu'il juge mal dirigé. Dans ce journal, l'actualité de l'étranger, le sport, le dossier et l'invité, le directeur chargé de la politique monétaire et des opérations à la Banque centrale du Congo parle de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Bonjour à tous, en santé pour commencer votre journal. Le choléra continue de faire des victimes dans la ville de Mbandaka et ses environs depuis près d'une année maintenant. 3 mois après le désengagement de l'ONG Andra, le centre de traitement de cette épidémie situé à Wangata ne reçoit plus d'appui ni des autorités locales ni des partenaires sectoriels. En plus, le personnel médical affiche une démotivation après 4 mois d'arriérés de primes. C'est ce que nous raconte Paul Richard Malengela.
Le spectacle est désolant à notre passage au centre de traitement des choléras de Wangata en Mbandaka. Les 6 malades internés sont épuisés et désespérés. Médicaments, sérums, eau chlorée pour la désinfection du site. Bref, tout pour la prise en charge des malades y manque, y compris la lumière pour la sécurisation du site la nuit. Du coup, ce sont les malades qui achètent eux-mêmes leurs produits. À défaut, c'est la mort dans les minutes qui suivent. Témoignage de cette garde de malades. Rien de gratuit. Le spectacle est désolant à notre passage au centre de traitement des choléras de Wangata en Mbandaka. Les 6 malades internés sont épuisés et désespérés. Médicaments, sérums, eau chlorée pour la désinfection du site. Bref, tout pour la prise en charge des malades y manque, y compris la lumière pour la sécurisation du site la nuit. Du coup, ce sont les malades qui achètent eux-mêmes leurs produits. À défaut, c'est la mort dans les minutes qui suivent. Témoignage de cette garde de malades. Rien de gratuit, il faut tout acheter. Même les gants pour que le médecin touche aux malades. Il faut que tu payes 500 francs congolais et l'on court acheter en ta présence. Depuis le matin, les enfants ne font que la rechute faute de perfusion et rien à manger. Voyez vous-même comment ils sont épuisés. Le mien est là par terre. Sa fille est couchée là-bas sur l'herbe. Que les autorités appuient le centre comme auparavant et qu'on paye la prime au personnel pour les motiver. Les agents du centre, sans matériel de protection, sont également à bout de force. Ils accusent environ 4 mois d'arriérés de prime. Jusque-là, pas d'explication sur cette situation d'abandon, aucune autorité sanitaire n'ayant été disponible pour nous l'expliquer. Mais hormis le manque de médicaments, les observateurs estiment que le choléra continue encore à sévir au chevelet de l'Équateur depuis avril 2016 par relâchement des sensibilisations et des mesures d'hygiène. Mbandaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Tout à fait autre chose. En aucun jour, je me suis inquiété en ce qui concerne la plainte me visant en Belgique. Déclaration faite hier mardi à Kinshasa par le ministre de la Justice et garde des Sceaux au cours de l'émission Top Presse de Radio Top Congo. C'était aussi à propos de l'enquête onusienne sur les massacres des civils au Kasaï et le sort de Moïse Katumbi-Djapoué. Le résumé de Jocelyne Moussaoupondé qui a pris part à cet échange.
Au sujet de ses démêlés avec la justice belge, le ministre congolais de la justice est dit confiant quant à l'aboutissement de cette affaire qui juge d'ailleurs être mal dirigée, tout en reconnaissant avoir revendiqué au nom du RCD cette attaque d'un avion de la compagnie CAL en 98 dans la ville de Kindu. Alexis Thamwe Mwamba dit avoir engagé un avocat qui suit près l'affaire. Il pourra lui-même, le moment venu, répondre devant la justice belge et croit que toutes les responsabilités seront établies. Au sujet de l'envoi des experts de l'ONU pour enquêter sur les violences dans le Kasaï. Le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, a affirmé que faire table rase sur les pas déjà engagés par la RDC revient à ne pas la reconnaître comme étant un État. Même le président de la République veut voir clair sur cette affaire, a-t-il ajouté. Quant à l'affaire Moïse Katumbi, le ministre a de nouveau déclaré qu'il peut rentrer au pays, mais il devra se présenter devant un juge. Le dossier Alexandre Stoupis est encore en cours.
Dans le Tanganyika, des maisons ont été incendiées et des villages désertés entre Kalemie et Bendera. C'est suite au conflit communautaire entre Twa et Bantou. Constat fait par une mission conjointe MONUSCO-autorité locale de Kalemie arrivée dans le secteur pour une campagne de sensibilisation des habitants à la cohabitation pacifique. François Xavier Mibé revient de la zone. Voici son reportage.
Le spectacle désolant, illustré par des maisons, les unes incendiées et les autres détruites, est observé à partir du village Kabanga, le point kilométrique 15, au départ des Kalemie jusqu'à 103 km au village Lumumba. Tous ces tronçons d'environ 90 km est aujourd'hui désert et les villages vidés de leurs habitants. Conséquence de l'insécurité provoquée par les derniers incidents d'il y a deux semaines liés au conflit Twa Bantou au village Kisonja à 60 km des Kalemie. Ces incidents ont causé la mort de deux personnes tuées à coups de flèche et provoqué le mouvement des populations dans la zone. Sur la voie, la mission a aussi observé la présence des éléments FRDC sur une dizaine de positions. La précarité des vies est présente parmi les populations. La plupart des enfants n'ont pas clôturé l'année scolaire dans la zone. Les structures scolaires ayant été touchées par des incendies, la destruction et les pillages liés au conflit. Les structures sanitaires n'ont pas pu être épargnées. À Bendera même, la population vit encore touchée par la psychose provoquée par la dernière attaque des éléments Mai Mai Yakutumba survenue le 1er juin. Retour de Bendera, François Diabembe, Radio Kapi.
Et au Nord Kivu, pendant ces temps, le gouverneur de province tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il considère comme une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon. Julien Paluku Kaungia en veut pour preuve la récurrence ces jours-ci des attaques d'hommes armés dont le mode opératoire à Kabasha, à Kassindi et à Beniville dépasse les simples groupes armés locaux. Il appelle l'état-major général des FARDC à se focaliser sur cette question. Il est joint par Martial Papimukeba.
La situation de la partie nord de la province du Nord Kivu devient désormais très très inquiétante parce que les attaques à répétition dépassent les simples attaques des Mai Mai que nous connaissons. C'est parce que lorsqu'ils attaquent, ils ne résistent pas à la puissance des feux 30-40 minutes. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les présumés Mai Mai sont en train de résister et ils planifient des attaques sur 3, 4, 5 agglomérations dans l'espace des mois. Ce qui dénote un approvisionnement en munitions et en armes lourdes. Or, les groupes Mai Mai ne sont pas capables de le faire dans beaucoup d'agglomérations au même moment. Voilà pourquoi je lance cette alerte particulièrement à l'état-major des forces armées pour que l'état-major focalise ses stratégies sur une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon parce que nous risquons de croire qu'il s'agit des groupes armés locaux alors qu'il s'agit d'une grande guerre qui va commencer dans la partie nord de la province.
Par ailleurs, le gouverneur Julien Paluku Kaungia a levé la mesure du couvre-feu qui avait été instauré depuis le 11 juin dans les villes de Beni et de Butembo. Annonce faite mardi sur son compte Twitter. Pour mémoire, ce couvre-feu avait été décrété par le Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu après l'attaque de la prison des Kangwaï à Beni par des hommes armés. Selon des sources pénitentiaires, 933 détenus s'étaient évadés, parmi lesquels des présumés rebelles ougandais de l'ADF et de Maïmaï. Seule une quarantaine a été rattrapée. Notez que deux semaines après cette évasion, un plan des contingences pour la sécurité de la prison centrale de Goma vient d'être mis en place par la MONUSCO et les responsables pénitentiaires de la ville. C'était à l'issue d'une formation de 48 heures organisée par la mission onusienne à l'intention du personnel en charge des prisons. Pour l'efficacité de ces plans des contingences, les participants ont plaidé pour une motivation du personnel. Comme l'explique un des formateurs à l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, Abdou Ndiaye, et au micro de Gabriel Wamenya.
Les grandes recommandations tournaient sur le renforcement de l'effectif, la dotation en matériel et en plus, pour une meilleure sécurisation, le déguerpissement de tous les riverains là qui occupent les alentours de la prison, la construction des miradors afin d'apercevoir l'ennemi de loin. Les participants ont recommandé au gouvernement congolais leur prise en charge financière. Ils ont demandé aussi au gouvernement congolais la dotation en armes civisantes et des véhicules pour assurer la liaison entre la prison et les hôpitaux ou bien les structures judiciaires. Il n'y a pas une sécurité parfaite. Ça va améliorer la sécurité de la prison de Goma, qui n'est pas du tout sécurisée avec la manière dont elle fonctionne. Une prison où les visites se passent à l'intérieur. Une prison où on ne détermine pas les jours de visite. Une prison où on ne fixe pas les heures. Nous ne sommes pas dans des conditions de sécurité requises par les normes internationales.
L'actualité sur Radio Okapi, c'est aussi la promulgation hier mardi à Kinshasa du budget de l'État pour l'exercice 2017. C'était à la faveur d'une ordonnance signée le 23 juin à Lubumbashi par le président Joseph Kabila. Ce budget est présenté en recettes et en dépenses à 11 524 500 000 francs congolais, annonce faite hier soir sur la RTNC. Et puis, toutes les sociétés minières installées en République démocratique du Congo sont appelées à rapatrier les 40% de leurs recettes d'exportation en devise dans les banques locales du pays, annonce faite par le ministre de l'économie nationale à la fin de la semaine minière tenue à Lubumbashi. En réaction, le directeur général de la SICOMINE rappelle qu'il s'agit là d'une disposition du code minier à son article 269. Jean Zeng, vous allez l'écouter, ajoute que cet argent appartient plutôt aux entreprises minières et sert au paiement des entrepreneurs et à d'autres besoins. Le fait de loger ces fonds dans les banques locales permet, selon lui, d'avoir plus de devises sur le marché local. Il a été joint par Nadine Foulansimba.
En principe, le code minier prévoit de retransférer 40% des produits de vente dans les comptes des entreprises des fonds dans les banques locales. Parce que c'est l'argent qui appartient aux entreprises, qui n'appartient pas à l'État. C'est l'argent qui sera dans les comptes des entreprises minières pour payer les prestations à l'intérieur du pays. Donc la main d'œuvre des entrepreneurs et certaines commandes qu'on doit faire localement, quoi. Pour en payer les fournisseurs, c'est l'argent qui va rester dans les comptes ici, qui vous sera dépensé. Donc les banques devront avoir un peu plus de devises à la banque, mais c'est l'argent qui appartient aux propriétaires. C'est une disposition de la loi. Il faut absolument, ce n'est pas une nouveauté. C'est la loi, ça fait partie de la loi qu'il faut appliquer.
Économie encore, le vice-président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo souhaite voir la RDC se doter d'une législation minière adaptée à sa situation et aux réalités économiques. Objectif affiché, attirer plus d'investisseurs dans ce domaine. Vœux exprimé à la fin de la semaine minière le week-end dernier à Lubumbashi. Ce projet de code minier qui a été discuté entre le gouvernement central, les entreprises minières et la société civile depuis 2012 est analysé en ce moment au Parlement à Kinshasa avant une éventuelle révisitation. Simon Toumawaku s'est confié à Nelly Kabena.
Je vous donne un exemple simple. Quand nous avons décentralisé le ministre provincial des mines qui devait être un des administrateurs du code minier, comme le ministre national des mines, n'était pas là. Les entreprises minières, surtout au niveau du Grand Katanga, recevaient des instructions du ministre provincial des Mines, mais se demandaient mais sur quelle base ils prenaient ces instructions-là, puisqu'ils n'étaient pas repris parmi les administrateurs du code. Le secteur privé, évidemment, a été engagé dans les négociations qui ont commencé de 2012 à 2015. Et comme je l'ai dit, les négociations étaient dures. Chacun essaie de défendre ses intérêts. Mais je crois qu'à la fin, nous avons quand même réussi à harmoniser pas mal de points, sauf la fiscalité. Et comme vous le savez, la fiscalité pour le secteur minier, c'est comme le cœur dans un homme. C'est tellement important, c'est tellement sensible, que donc c'est important qu'il y ait une certaine compréhension mutuelle pour arriver à la bonne formule de la fiscalité qui régit notre pays.
Actualité, Afrique Monde.
L'actualité de l'étranger maintenant. L'avocat de la famille Denis Sassou Nguesso et l'État du Congo-Brazzaville annonce une série de procédures contre l'ONG Transparency International. Maître Viala a lancé une requête en nullité contre la première plainte de cette ONG internationale déposée depuis 10 ans. Il vise l'association elle-même. Il annonce aussi des poursuites judiciaires en diffamation contre l'administrateur de l'association Sherpa qui lutte contre la criminalité économique et financière. Libération lundi dernier de Johan Gustafsson, enlevé à Tombouctou au nord du Mali il y a 5 ans, suscite un peu d'espoir en Afrique du Sud. L'otage suédois avait été enlevé avec le Sud-Africain Stéphane Mago et un Néerlandais dénommé Sakrik, libéré depuis. Un Allemand avait été tué en tentant de résister aux ravisseurs. Leur kidnapping avait été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis, poursuite au Gabon de l'enquête dans l'affaire Abamikon. Le 16 juin dernier, un commando a attaqué des médias de la ville de Libreville pour diffuser un message de l'ancien candidat à la présidentielle dans lequel il donnait 72 heures au président Ali Bongo pour céder le pouvoir à Jean Ping. Hier, mardi soir, Roland Désiré Abamikon et son ex-directeur de campagne, Guy Arlin Mang, ont été placés en détention préventive. Enfin, sachez que l'UNESCO a souhaité saluer cette année 2017 l'aide aux migrants. Cette agence onusienne a décerné hier le prix Oufet Boigny pour la paix à Paris en France à l'ancienne maire de Lampedusa, Maria Nicolini, et à l'ONG de secours des migrants en mer SOS Méditerranée. Le dossier de Radio Okapi à 7h15. Une centaine de personnes ont réfléchi lundi à Rutshuru sur comment lutter contre le kidnapping devenu un fléau dans le territoire du Nord Kivu. Une initiative de l'ONG locale Amani Institute Grand Lac avec l'intervention de la police civile de la MONUSCO. Quelles pistes des solutions les participants ont-ils préconisées pour conjurer ce mal? Un mini dossier préparé par Jules Ngalawamona.
Comme partout ailleurs en pareille circonstance, les participants à cette conférence ont d'abord décortiqué les causes profondes du phénomène kidnapping en territoire de Rutshuru. Des causes aussi nombreuses que variées, comme les énumère ici Marc Itzak Tsongo de l'organisation Amani Institute Grand Lac.
Il y a le non-encadrement de la jeunesse, il y a aussi la crainte et la non-dénonciation, il y a l'implication de certaines autorités. Dans cette affaire, il y a la mauvaise gouvernance, il y a la multiplicité ou la prolifération de milices à caractère communautaire.
Mais d'autres sources sont catégoriques. Les kidnappeurs ne peuvent être que des jeunes, particulièrement des jeunes désœuvrés. Madame Tizanta Menya de la société civile de Rutshuru.
Nous croyons qu'un jeune passant n'est pas capable d'engager quelqu'un et de l'amener dans la forêt. Donc c'est quelqu'un qui est fort, qui sait manier des armes. Quand ils enlèvent quelqu'un, s'il a un téléphone, on utilise son téléphone et on appelle un membre de la famille.
Une jeunesse de Rutshuru qui estime que les responsabilités sont partagées dans ce phénomène kidnapping dans le territoire. Héritier Kachougou est le président du conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru.
La jeunesse, on est toujours utilisée, mais vous allez comprendre qu'il faut aussi animer, il faut aussi motiver, il faut aussi instruire par d'autres personnes. C'est d'autres derrière, il y a aussi les acteurs politiques, il y a aussi les gens qui ont peut-être dévancé cette nouvelle génération en âge.
Parmi les conséquences socio-économiques néfastes du kidnapping à Rutshuru, Madame Tiza de la société civile parle du cercle vicieux kidnapping, paiement de rançon, pauvreté. Ou encore kidnapping, confinement des paysans dans les agglomérations, pauvreté. Bref, le kidnapping serait à la base de la pauvreté accentuée actuellement en territoire de Rutshuru selon cette actrice de la société civile. Que faire alors pour mettre fin à ce phénomène? Pour Madame Tiza Ntamenya, la solution passe avant tout par la création des emplois pour les jeunes.
S'il y avait ce moyen d'encadrer la jeunesse, c'est de créer des emplois pour que les jeunes travaillent. Je crois que c'est ce qui aurait déjà permis. C'est le chômage qui le plus agit sur cela. Nous, au service de sécurité, quand même s'il y a quelqu'un qui a été enlevé, qu'il fasse de leur mieux pour découvrir le numéro qui a appelé pour demander l'argent.
Selon Amani Institute Grand Lac de Rutshuru, au moins une cinquantaine de cas d'enlèvement ont été signalés sur l'ensemble du territoire au cours du seul mois de mai dernier. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Revue de presse.
Bonjour Onésime Mukandila.
Bonjour Pascal Masirik.
Dans un message prononcé lundi à Lubumbashi où il séjourne, Joseph Kabila tranche, des élections sans le Kasaï, c'est la manchette du quotidien Le Potentiel paru ce matin.
Le confrère rapporte que sa rencontre a été tendue avec députés, sénateurs et responsables des confessions religieuses. Selon des témoignages, l'absence à cette rencontre de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Tafunga, n'a pas été appréciée par Joseph Kabila, qui exclut l'hypothèse d'organiser des élections sans les provinces du Kasaï en proie à des graves tensions, renchérit le journal, qui signale par ailleurs que Joseph Kabila s'en prend aux évêques catholiques qui, dans leur courrier récent, ont appelé tous les Congolais à se tenir debout face à la crise majeure que traverse leur pays et mis en accusation un petit groupe d'individus qui a pris en otage tout un pays. De quoi provoquer l'ire de Joseph Kabila, conclut le tabloïd. Ce qui n'a pas empêché Actualité.cd de mettre en vedette ce matin, la situation va de mal en pis et le gouvernement a une grande part de responsabilité à en croire l'abbé Donatien Cholet. En outre, le quotidien La Prospérité titre à la une « Sans le Grand Kasaï, élection 2017 », Sami Bajibang doute. Par ailleurs, Dépêche.cd se fait écho des propos de Corneille Nanga, je cite « Il y aura 8 activités après l'enrôlement pour avoir de bonnes élections en RDC ». Aux antipodes, politico.cd relève qu'entre couac et lenteur, l'enrôlement est très compliqué à Kinshasa. Sous un autre chapitre, le journal Forum des As renseigne que dans une correspondance du 20 juin, le PGR retire l'autorisation de sortie à Moïse Katumbi. Dans cette veine, le tabloïd Le Phare signe « Congolité ». Tous sont suspects, malgré les accusations et contre-accusations, explique le confrère, avec en toile de fond le port de la double nationalité, ou mieux, d'une nationalité congolaise douteuse. Sous ce prisme, Dépêche.cd publie un document démontrant que Katumbi a renoncé à sa nationalité italienne en 2016. Pendant ce temps, le quotidien Le Potentiel annonce une nouvelle guerre au Nord Kivu. Les révélations sont de Julien Paloukou, le gouverneur, et le journal Forum des As, de nous signaler qu'à Masisi, précisément, les APCLS s'installent à Kichanga. Zoumeko, de son côté, nous informe que Bajibang et ses ex-ministres ont touché, je cite, 5,8 milliards de francs congolais d'indemnités de sortie. De son côté, Le Phare aborde l'affaire 7 millions de dollars détournés à la SCTP, accusée par la PCA Katumwa. Kimbembe contre-attaque. Je vais arranger la situation en 20 jours si je rentre à la SCTP, a-t-il déclaré à actualité.cd. Pour clore, le journal Le Phare revient à la charge en signalant qu'il y a eu une vive tension à l'Unikin. Les auditoires sont une fois de plus restés vides hier, ce à la suite de la contestation de la candidature du coordonnateur sortant des étudiants à qui il est reproché la mauvaise gestion et la tentative de glissement de son mandat déjà arrivé à son terme. Cette revue de presse est arrivée à son terme sans glissement. Pascal Masserica.
Merci Onésime et à très bientôt.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur chargé de la politique monétaire et des opérations bancaires à la Banque centrale du Congo. C'est au sujet de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Jean-Louis Kayembe s'entretient avec Nadine Foulansima.
Bonjour Monsieur Kayembe.
Bonjour Madame Nadine.
Ça fait plusieurs mois, nous constatons que le franc congolais continue à se déprécier et apparemment rien n'est fait sur terrain. Est-ce qu'il y a des efforts fournis par la Banque centrale pour combattre cette dépréciation?
Oui, effectivement, ce qu'on observe depuis un certain temps, c'est de la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Cette situation est expliquée par trois facteurs principalement. Le premier facteur le plus important, c'est la pénurie des devises sur le marché. Comme vous le savez, depuis la baisse des cours de matières premières, notamment les cuivres, il s'en est suivi une baisse drastique des recettes d'exportation et une contraction de l'offre de devises sur le marché. Donc, il y a pénurie des devises sur le marché et cette situation fait qu'il y ait des équilibres sur le marché d'échange entre l'offre et la demande. Comme vous le savez, regardez, la demande est toujours très forte parce que tout ce qui est consommé ici en RDC vient principalement de l'étranger. Et donc, chaque mois qui passe, les opérateurs économiques sont à la recherche de devises pour importer les biens de première nécessité. Le deuxième facteur, c'est en fait l'ajustement difficile au niveau de trésor. Comme vous le savez, dans le contexte qui est le nôtre, la baisse des recettes dans un contexte où les dépenses sont difficiles à réduire de manière drastique. Disons, au premier quadrimestre de janvier jusqu'à avril, il y a eu un certain ajustement. L'État était légèrement en excédent, mais à partir du mois de mai et même de juin, donc il se pose un problème véritablement au niveau des finances publiques qui consacre donc une certaine injection de liquidité. Mais les efforts sont faits pour essayer de gérer sur base caisse, mais cela n'est pas facile compte tenu des conditions intérieures. Le troisième facteur, c'est en fait la spéculation. Les gens sont en train de spéculer, il n'y a pas d'investissement direct étranger, il n'y a pas suffisamment d'entrée de devises du fait des conditions intérieures actuelles. Donc, il y a une certaine des anticipations pessimistes qui s'observent au niveau du marché. Néanmoins, au niveau de la Banque centrale, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de la Banque et du gouvernement. D'abord, au niveau de la Banque, toute l'année 2016, nous sommes intervenus plus de 5 fois sous le marché d'échange, en injectant, en vendant des devises sous le marché, en confortant l'offre de devises sous le marché. Toujours l'année 2016, au mois de février comme au mois d'octobre, nous avons relevé les coefficients de la réserve obligatoire par 2 fois. Et donc, la vente des devises, le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire, ce sont deux actions principalement, deux instruments de la banque de la politique monétaire qui ont été utilisés pour essayer de contenir la dépréciation du taux de change. Mais je crois que le comité de politique monétaire s'est réuni vendredi et a pris d'autres décisions pour resserrer la politique monétaire et voir comment on peut éponger la solvabilité, la liquidité encore sur le marché.
Mais apparemment, tous ces efforts-là n'ont pas toujours un impact sur cette dépréciation.
Oui, pour une solution durable, face aux causes qui sont à l'origine de cette dépréciation, donc d'abord, c'est un ajustement budgétaire en interne. Donc, il faut une discipline budgétaire, essayer dans la mesure du possible de travailler sur base caisse. Donc, ne dépenser qu'à la hauteur des ressources qui sont mobilisées. Deuxièmement, c'est qu'il faut que nous puissions, à court et moyen terme, chercher d'autres sources pour le trésor, d'autres sources d'appui budgétaire et d'appui à la balance des paiements. Parce que face à une pénurie de devises, la solution, c'est au niveau de l'offre, c'est réduire les importations ou bien augmenter l'offre de devises sur le marché. Ce que l'on peut faire, c'est essayer d'obtenir des appuis à la balance des paiements, les appuis budgétaires, avoir des investissements directs étrangers et réaliser des entrées de devises sur le marché et de manière à ce qu'on puisse conforter l'offre sur le marché.
Oui, M. Kaimbe, ce week-end, il a été demandé aux entreprises minières de rapatrier 40% de leurs recettes.
Comment? Parce que comme ces mesures sont prises pour que, justement, qu'il y ait l'entrée des devises sur le marché et à que l'offre de devises soit confortée, parce que, comme vous le savez, les miniers, la source principale des devises au sein de notre économie, c'est en fait les recettes d'origine minière et d'origine des hydrocarbures pétrolières. Si ces recettes-là venaient d'arriver, ça va conforter l'offre sur le marché et ça peut essayer, dans une certaine mesure, de stabiliser les taux de change.
Merci beaucoup, Monsieur Kaimbe.
Okapi Sport.
On passe au sport avec vous, Christian Moulumba Kalumba. Bonjour.
Bonjour Pascal. Le cercle sportif Don Bosco s'est largement imposé contre Bukavu Dawa. Score final 4-0 mardi au stade de Mazembe de Kamalondo. C'est à Lubumbashi, un match avancé de la 14e et dernière journée des playoffs du championnat national de football. Mouini Dibundu a signé un doublé aux 5e et 26e minutes, imité par Ngomba Carrington qui a inscrit le 3e but des Salésiens à la 49e minute et le buteur maison Ushindi Wakubanza à la 65e va clore le débat. Une victoire qui permet à Don Bosco de prendre la 4e place au classement avec 15 points après l'exclusion de Renaissance du Congo de la compétition, tandis que Bukavu Dawa reste scotché à la 6e et avant-dernière place avec 5 points. Et puis l'étoile du matin de Bukavu a eu raison de l'étoile matin de Kinshasa par 2-0 mardi au stade de Tata Raphaël, un match de la 3e journée de la Coupe du Congo de football féminin. De son côté, victoire de Kisangani s'est inclinée devant Bilenge de Kinshasa sur le score sans appel de 9-0. On retiendra le quadruplé de Yvonne Malimbo et le triplé de Nancy Ndozi. Victoire de Matondo et Christelle Belinda ont marqué les deux autres buts. Gora du Congo Central a perdu devant Okapi de la Tchopo par 2-1. Quant à la Jeunesse Sportive Kolwezi, elle s'est promenée devant Pomo Sport du Congo Central par 6-0. Le Gabonais Arnaud Otogo Castan sera au sifflet du match entre l'ASV Club et l'Espérance Tunis. Match contemple la cinquième journée phase de groupe de la Ligue des Champions samedi au stade de Martyr. Castané sera assisté par deux de ses compatriotes. Les sangs et or de l'Espérance sont attendus ce mercredi à Kinshasa. Le match Mounana du Gabon, tout puissant Mazembe de la RDC en Coupe de la Confédération qui va se jouer dimanche verra le Marocain Redouane Djed au sifflet. Et puis en basketball, on va jouer cet après-midi entre INSS et Atari chez les dames et CSM Ista chez les messieurs dans le cadre de la 22e journée du championnat provincial de Kinshasa.
Avant de rendre l'antenne, parlons du taux d'échange indicatif de la Banque Centrale du Congo pour ce mercredi. Notez que le dollar s'achète à 1488 francs congolais et se vend à 1545 francs congolais. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 7h30.
Retrouvez Pascal Masserica à 8h.